Salut les marques et salut les smarts et bienvenue dans ce nouveau numéro du supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE, SmackDown Live. Je suis IRM et je suis accompagné, il est de retour, enfin Giscal. Salut Giscal.
Salut IRM, salut tout le monde.
Giscal qui est parti comme ça un petit peu explorer le monde à la rencontre des indigènes. Est-ce que où tu es allé et tu...
C'était presque indigène, non, c'était les Indonésiens. Je suis parti à Bali me ressourcer, je couper court un peu au monde fantaisiste de la WWE.
Donc t'as pas vu, je sais pas, des mecs avec des t-shirts, de catch.
Non, écoute, ils ont l'air d'être la vague WWE n'a pas l'air d'avoir submergé l'île de Bali, puisque je n'ai pas vu, j'ai vu aucun t-shirt, j'ai vu aucun billboard avec la tête de John Cena, j'ai pas, non. Rien du tout, donc je sais pas s'ils sont, sont très clients, mais voilà.
Comme quoi, il reste encore des marchés, des territoires à conquérir pour Vince McMahon.
Exactement.
Vince McMahon, qui justement, écoute, on en reparlera un petit peu de ce que tu as pensé. Est-ce que tu as rattrapé ton retard?
Alors non, j'ai lu les reports un peu, mais j'ai pas eu trop l'occasion ni de vous écouter ni de regarder les vidéos, donc du coup, ou de regarder les shows. Donc non, je découvre un peu les événements avec toi.
Bon, tu n'es pas quand même sans ignorer le principal événement de la semaine dernière.
J'ai vu.
Entre Kevin Owens et le CEO de la boîte, justement, au menu, Kevin Owens est en orbite, Rusev efface les traces de la honte, AJ Styles fait de la lèche, Jinder Mahal incarne le malaise, et Charlotte Flair est une auteure à succès. C'est Shane McMahon qui prend la parole. Il vient nous rappeler les événements de la semaine dernière. Nous sommes à Auckland et il condamne justement les actes lâches de Kevin Owens. On en parlait justement avec Giscal il y a une minute, qui avait donc agressé Vince McMahon. Il met des coups de boule à des septuagénaires quand même, Kevin Owens, même si ce sont des vrais son of a bitch. Hein, voilà, ce sont les paroles de Shane. Hein. Il dit quand même que son père est un son of a bitch. Bon, évidemment, ça n'a pas exactement le même teneur qu'en français. Hein. Il ne faut pas traduire ça littéralement, mais bon, c'est sympa. Bonne ambiance dans la famille. Tu as dû te rendre compte de ton erreur. Il s'adresse à Kevin Owens. Hein. Vu que moi je suis là et que toi tu no show, on connaît cette expression. Hein. No show, c'est tout simplement quand on ne vient pas, c'est. Souvent, quand à la grande époque de la NWO, etc., les mecs faisaient un peu ce qu'ils voulaient et ils venaient même pas, ils se déplaçaient même pas et les catcheurs ne venaient pas. Alors, ça m'a fait marrer que Shane dise ça, puisqu'on est qu'au début de l'épisode à ce moment-là. Donc, d'ailleurs, on se demande ce qu'il fout là un petit peu Shane McMahon, parce qu'il a pas, il était un petit peu démis de ses fonctions, mais pour autant, il se permet de venir ouvrir le show. C'est assez amusant. Donc il continue, imagine si tes enfants avaient vu leur père se faire attaquer lâchement, comme les petits-enfants ont vu leur grand-père se faire attaquer lâchement la semaine dernière. Déjà, moi j'aurais un petit conseil à donner à Shane McMahon, c'est tu laisses pas tes gosses regarder du catch. Hein,
En effet.
C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Alors il nous rappelle justement que les McMahon, c'est l'amour vache, hein, ça on le sait, hein, ça fait des dizaines d'années que ça dure, je t'aime moi non plus. Mais il rappelle que quand l'un des nôtres se fait attaquer, les liens du sang se resserrent. Et donc, il déclare qu'il va envoyer Kevin Owens, pas juste en enfer, mais dans Hell in a Cell, donc l'enfer dans une cage. On peut dire ça comme ça.
C'est ça.
Un petit peu plus tard, on aura droit à Kevin Owens en direct via satellite. Alors, ça nous rappelle des bons souvenirs, The Rock, les promos du Rock. Kevin Owens donc qui n'est pas à Auckland ce soir, il s'excuse Kevin Owens pour ses mauvaises actions auprès des fans, du management. Alors il essaie d'arrondir les angles, visiblement il veut pas trop non plus, il a compris que envoyer les avocats à Stamford c'était pas forcément le bon coup à faire, et il rejette la faute sur Shane McMahon qui l'a poussé à agir ainsi. Lui qui adore tant Vince, lui qui respecte Vince, Kevin Owens, il s'excuse d'avance du sort qui attend Shane pour le pay-per-view. Alors, Giscale, qu'est-ce que tu penses de cette histoire, hein, vu que on n'a pas encore eu ton avis, et de cette intro et de cette petite séquence satellite?
Eh ben écoute, j'aime bien. Moi, j'ai rattrapé ça un petit peu, en effet, voilà, par report interposé. J'ai pas trop vu de séquence, à part les flashbacks là de cette semaine qui nous ont bien resitué. Tu vois, écoute, c'est une bonne. D'ailleurs, c'est une bonne expérience pour ceux qui font des coupures de 1, 2 semaines, 1 mois. La WWE n'empêche, avec ses packages vidéo, ces petits rappels, ces petites introductions, parce que j'ai trouvé que l'introduction de Shane était pas mal justement. Et ben, te rattrape assez vite, te resitue plutôt bien le contexte. Donc ça m'a permis d'apprécier en fait un petit peu le travail d'introduction qu'ils font parfois, où on se dit toujours pendant 10 minutes, ils nous font chier avec leur micro pendant 10 minutes à ouvrir le show. Ouais, mais n'empêche que voilà, ça a le mérite de remettre un petit peu l'histoire sur les rails. Donc moi j'aime bien cette histoire. Je suis
Donc, en fait,
toujours
tu conseilles aux gens de faire des pauses de 2 semaines entre chaque épisode,
pas du tout,
d'aller à
pas du tout.
Bali, nager avec les tortues, de
Ah oui
revenir
oui
et
si si
d'apprécier les promos de Shane.
si si ça je conseille en effet, oui. Mais non, mais du coup on apprécie peut-être mieux la promo de Shane avec une coupure de 2 semaines, je sais pas. Non, écoute, j'ai trouvé que sa promo, en fait, déjà j'ai bien aimé parce que sa promo était courte. C'était parce que généralement ce genre d'introduction traîne, puis il y a des
Ouais,
interventions,
puis
des
là,
petits.
c'était le ton était sérieux, donc il a pas
Voilà.
trop joué avec le public.
Exactement. Son ton était parfaitement approprié. Son père venait de se faire tabasser violemment et tout, donc l'heure n'était pas la rigolade. Il a pas fait sa petite danse. Il a fait 2, 3 big up là, tout ça. Mais bon, ça s'arrêtait là. Donc ça c'était bien, sérieux. Du coup, bon bah voilà, il a tous les motifs maintenant légitimes pour vouloir foutre Kevin Owens, du coup, en enfer, hein, parce que c'est tout le thème, hein, il joue bien là-dessus, hein, donc je te condamne à l'enfer dans la cage, comme tu l'as dit. Je pense que ça va donner un match très très cool, parce que bon, déjà Kevin Owens est très fort, quelle que soit la stipulation, quel que soit le type de match, que ce soit technique, sérieux, comédie, avec stipu et tout. Et Shane McMahon n'est jamais aussi bon que quand on lui donne carte blanche au niveau de la stipulation pour se donner, on va dire, à 200% physiquement dans un ring. Donc je pense que ça va être assez fun. Et puis bah la petite promo par satellite de Kevin Owens, c'est assez marrante. J'aime bien parce que en fait au début je comprenais pas, il faisait son excuse là,
Ouais, tu fais quoi?
100% sincère. En fait,
Merde.
je trouve que ça colle assez bien avec son
Mais c'est carrément lui, hein.
personnage qui est vraiment mais ultra tordu. Parce que voilà, il parlait de lawsuit la semaine dernière, comme quoi il allait attaquer la WWE, qu'il allait les ruiner, tout ça machin. En fait, il est toujours à se couvrir les miches. Il dit jamais un mot de travers. Il dit jamais un truc qui pourrait lui porter préjudice plus tard, comme quand il a bien, parce que j'ai revu la séquence de la semaine dernière, il a bien fait dire à McMahon une phrase qui, du coup, ne permettait permettait l'ambiguïté pour qu'il puisse le tabasser. Là, pareil, le fait qu'il s'excuse sincèrement, machin, tu sais, t'as l'impression qu'il a ses avocats derrière lui. Je trouve que ça colle bien.
J'imagine la dizaine d'avocats derrière la
Ouais,
caméra avec les panneaux.
il faut que tu dises ça et tout, comme ça c'est nickel, tu pourras pas te faire baiser et tout. Enfin voilà, donc j'ai trouvé que sa promo était pas mal, vraiment détestable. Donc c'est cool. J'ai pas le sentiment de voir une redite de AJ Styles, Shane McMahon, ou de le Miz avec Daniel Bryan. Enfin voilà, ces conflits un peu d'autorité à SmackDown. Je trouve que c'est assez frais, c'est pas mal fait, donc ça me plaît bien.
Bon, écoute, je suis ravi que tu apprécies cette feud, parce que c'est quand même la rivalité principale de
Ah oui.
SmackDown. Donc, écoute, hein, je me joins à tes louanges. J'ai beaucoup apprécié effectivement à la fois le ton qu'avait Shane et puis Kevin Owens qui vraiment effectivement tient bien son perso. Tu l'as dit, il voulait envoyer les avocats et puis il se rend compte que bon, peut-être pas en fait. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. C'est un mec qui pense toujours à ses intérêts. On se souvient, à NXT, c'était pareil. Il disait, voilà, moi je veux être champion parce que si je suis champion, je gagne plus d'argent et du coup je peux m'occuper de ma famille. Et puis voilà, donc il a ses excès de colère, mais il se rend compte quand il a dépassé les limites, quand il est sur le point de le faire. C'est assez intéressant comme perso. Et puis, c'est un match, hein, comme tu l'as dit, qui va s'annoncer dantesque. Donc on est impatient. Aiden English nous offre un magnifique interlude musical, une ode à la vipère, interrompu justement par Randy Orton, puisque ce soir ils ont un match. Donc c'était assez drôle, hein, comme petite chansonnette où il parle justement de Randy Orton. Au début, je pensais qu'il allait faire sa fameuse chanson, son theme song pour la nouvelle émission du KO Show. Mais on est déjà passé à autre chose, hein, ça va tellement vite à SmackDown. Aiden English, donc, a quelques occasions de briller, hein, lors du match, autrement que par le chant, ses capacités vocales. Il fait un moment, il y a une espèce de surpassement, là, ils sont près de la table des commentateurs. Randy Orton s'apprête à le balancer sur la table, et puis en fait, non, il repasse par-dessus Randy Orton, et c'est lui qui balance Randy Orton sur la table. Mais au final, le RKO fatal, létal et trop fort, il
Et
est
oui.
pris dans la prise, le finisher célèbre sur internet de la vipère. Theme song de Rusev qui retentit, humilié et en quête de vengeance, hein, le Bulgare qui défie Randy Orton dans un match pour effacer, hein, il explique qu'il veut effacer la honte qu'il a ramenée dans son pays. La vipère accepte, donc voilà, il se book un petit match avec l'arbitre, l'arbitre
Tranquillou.
KO tranquillou. C'est assez rare pour le souligner, hein. C'est généralement le heel se défile ou tout simplement l'autorité reporte le match à la semaine prochaine, par exemple. La vipère accepte et se mange un super kick suite à une petite diversion de Aiden English qui est resté ringside. Donc énorme kick de Rusev alors que la cloche a sonné. 1, 2, 3, victoire expéditive de Rusev. On remet les compteurs à zéro. Backstage, un peu plus tard, on retrouve un Rusev extatique, complètement surexcité par cette victoire. Il est interviewé par Renee Young. C'est vraiment le Rusev des grands jours. Souvenez-vous à la grande époque la League of Nations où voilà, il faisait plein de conneries ringside. Il était reparti avec un écran et il s'était déclaré sur Internet TV Champion. Très drôle, hein, Rusev. Il explique que. Alors, déjà, justement, elle lui pose la question. Elle lui demande pourquoi êtes-vous si extatique? Enfin, en anglais, évidemment. Hein. Et lui, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas ce mot. Maintenant, je peux rentrer chez moi en Rusev number one. Rusev number one. Et le public t'entend derrière, le public qui
Oui, c'est
prend et
sûr
qui
que
chante.
ça, t'entends le
C'est ça qui est
public.
énorme. En fait, il est adoré de la foule. C'est un super personnage. Est-ce que tu es autant excité que moi? Est-ce que tu es extatique comme
Ah, je
Rusev?
suis extatique, c'était mon segment préféré. C'est rien, hein, parfois il suffit de rien, mais 30 secondes de Rusev backstage et genre j'étais mort de rire. La promo était vraiment, je trouve, trop drôle. Avec, il a un sens. En fait, c'est marrant parce qu'il est pas, il a un accent. Il est pas super fluent en English. Enfin, fluent en English, quelle horrible phrase. Enfin, il est
Ah là
pas.
là,
Il est
putain, carton rouge là.
carton rouge. Enfin, bref. Et du coup, mais c'est drôle parce que il a un sens pourtant malgré tout de la comédie et du timing comédie quand il sort ses blagues et tout, mais qui est trop drôle. Et quand René Young lui demande est-ce que t'es extatique machin et qu'il fait quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais j'étais mort de rire. C'est vraiment. Je suis sûr, c'est le genre de truc qu'ils peuvent improviser sur le moment. Enfin, lui qui peut improviser sur le moment
Ah
tellement
oui.
il est marrant. Et donc évidemment que je suis content. Et le Rusev number one comme ça avec le public. Alors le public qui reprend et du coup le public qui reprend moi sur le moment, ça m'a fait me dire est-ce que genre il y a peut-être un truc à creuser. Faudrait peut-être qu'il le tente. Faudrait peut-être qu'il le tente de pusher ce truc-là un petit peu parce que. Je sais pas, il y a un truc qui me fait penser vachement vraiment au tout début des Yes Chants de Daniel Bryan, mais où ça partait de, c'était un heel, hein, Daniel Bryan quand il a lancé ses Yes
Bien
Chants,
sûr.
c'était avec le Big Show quand il avait pris son titre pour la première fois, et ça partait d'un truc complètement ridicule d'un heel qui a été petit à petit repris par le public, et je trouve que ça a le potentiel, je sais pas, il y a des similitudes un peu dans le truc qui me font me dire que ça pourrait vraiment être quelque chose qui pourrait devenir un truc vraiment donc voilà ça m'a fait beaucoup sourire, j'ai trouvé ça très sympa et au-delà de ça c'était un segment qui était mine de rien plutôt bien vu à tous les niveaux. J'ai trouvé Aiden English dans un match de haut profil encore une fois qui semble continuer d'avoir les faveurs du management. Il est utilisé de manière régulière et plutôt solide. Bon, il se fait battre de manière fort logique. Le match était somme toute oubliable. Hein. C'était du
Oui.
bas de ce qu'il pouvait nous proposer. Hein. On va pas non plus s'enflammer. C'était assez moyen. Mais j'ai trouvé que c'était sympa de voir Aiden English dans un match comme ça. Il se fait battre. Mais pour autant, il n'est pas non plus mis aux oubliettes et ridiculisé et tout, parce qu'il joue un rôle quand même dans le post-match. Hein. Donc, est-ce qu'il va continuer à tourner autour de ces deux-là, ce qui serait quand même une bonne chose pour son personnage, pour plus tard, ça pourrait être bien pour lui. Et puis au-delà de ça, bah voilà, il y a l'effet miroir de SummerSlam. Rousseff prend sa revanche pour.
Ça, c'est
pour
bien vu, hein.
Oui, c'est aussi assez bien vu et assez surprenant. Je
ouais,
m'attendais pas
inattendu.
Trop. Le super kick qui couche Orton, bon forcément parce qu'il venait d'avoir un match, donc ça se justifie. Et voilà. Et donc pour ceux qui évidemment, comme toujours, crient à l'enterrement systématique quand un catcheur perd en pay-per-view ou se fait squasher, bon bah encore une preuve éclatante que ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent. Mais c'est toujours la même chose. Le catch, ça va très vite et parfois il y a ce sont des ficelles qui sont utilisées pour le spectacle, pour un soir donné ou pour avancer une histoire. Et donc, bah voilà. Donc là, ils sont un partout et ça me fait plaisir de voir Rousseff peut-être opérer un petit changement ou un petit tweak dans son personnage qui pourrait déboucher plus tard sur un face turn
Ouais,
si ça
puis ça a l'air de vraiment d'être lui en plus, toi. Ça a l'air d'être lui, il a l'air d'être comme ça,
ouais.
d'être un gros rigolard, qui improvise plein de blagues. Donc, quoi de mieux que d'utiliser le naturel et sa personnalité. Il a l'air vraiment de savoir improviser ce genre de
Ouais.
situation. Dans les scènes backstage, il est très souvent très drôle et très à l'aise, donc voilà, une rivalité qui promet d'être au moins divertissante grâce à Rousseff.
Si Rousseff continue comme ça, ouais,
C'est
je
ça.
pense, ouais.
Effectivement, on lui souhaite un destin aussi brillant que Daniel Bryan et Say Yes Chance. Tu parlais justement d'enterrement. Un qu'on avait enterré assez rapidement, c'était Le Baron, hein, suite à sa défaite.
Lui, ça faisait un peu plus mal, par
Lui,
contre.
ça faisait un peu plus mal. Je pense que le Baron, de toute façon, il a été enterré et déterré, en fait. C'est ça le truc, hein. Il faut pas se mentir. Pour autant, il est toujours dans les pattes de l'ami AJ Styles. AJ Styles, justement, ce soir, qui vient sur le ring et qui va faire un petit peu de lèche, hein, puisqu'il en place une pour Kevin Owens, hein, en lui disant, bah voilà, Kevin Owens. Je sais plus exactement, j'ai pas noté tout ce qu'il disait, mais grosso modo.
Oui, enfin, il disait surtout que Kevin Owens avait fait une grosse erreur et qu'il allait se rendre compte que faire un Hell in a Cell avec Shane McMahon, c'est pas du tout ce qu'il avait envie. Enfin, il joue sur le fait que AJ Styles, comme il connaît Shane McMahon, il vend un petit peu les capacités
Bien sûr. Bon,
du fils McMahon.
c'est pas de la grosse lèche. Et puis, c'était plutôt
Non.
bien vu parce qu'effectivement, tous ces gens-là sont bien connectés. Donc, c'est appréciable, hein, évidemment, d'avoir des liens comme ça qui se tissent. Il en place une aussi pour le Baron, hein, qui fait que perdre à chaque fois qu'il veut prendre des raccourcis, hein, des shortcuts, comme on dit. Il rappelle, hein, toutes les défaites et les échecs du Baron, notamment qu'il avait voulu cacher face à John Cena. Et ce soir, on a donc le fameux match Baron versus AJ Styles pour ce pseudo open challenge où en fait c'est comme les bons restos, faut réserver 3 semaines à l'avance si tu veux avoir. C'est le open challenge, mais pas trop. Donc voilà, on a toujours cette musique là, ce nouveau theme song, hein, du Baron avec.
Pas fan, moi.
Ouais, il y a des choses intéressantes, mais faudrait faire une espèce de mix entre ce qu'il avait avant, le bruit de la bécane, plus. Parce qu'il y a des bons petits riffs de guitare sur celle-ci, mais alors après, le truc religieux, là,
Ouais.
l'Omen Ave Maria, et puis en plus, il a plus son liquide noir là qui
Ouais,
avançait sous ses
c'est
pas là.
dommage, il y avait pas mal de choses de bien,
Ouais.
ouais, c'est. Je...
Bon, bref, on a du Vintage Baron, hein, ce soir, puis qui se met à tabasser AJ Styles avant la cloche. Hein, toujours cette petite attaque par derrière, là.
Ça, il adore ça.
Ah, il adore. Et nous, on adore aussi. Le match commence, enfin, le match ne commence pas, je veux dire, mais c'est Ty Dillinger qui intervient. Hein, la cavalerie arrive, il est remonté comme une pendule, le Perfect Ten. On se souvient, hein, que le Baron a plusieurs fois intervenu dans les matchs de Ty Dillinger. Les coups pleuvent sur le pauvre loup solitaire. Son tibia est brisé, hein, en direct. Attention, il se plaint, il gémit. Ça ne va pas. Il ne peut plus combattre et se lâche de AJ Styles en profite. Le Baron n'a pas d'autre choix que de taper, mais le match n'a jamais commencé, donc c'est stupide. Backstage, il se fait agresser une troisième fois par Renee Young. qui vient l'interviewer. C'est très drôle puisque
Ouais,
il
celle-là
marche
aussi, elle est
comme.
pas mal.
Et oui, elle est pas mal. T'as le baron qui marche comme ça, il est pas content, il est blessé, etc. Ça s'est pas passé comme il voulait, évidemment. Et puis t'as René Young comme ça qui sort d'un buisson pour lui poser une
Ouais,
question. Et lui, il fait What? Mais genre, on est à la fois en ayant peur et en étant
c'était très
surpris.
très
Il
bon.
fait What? Laissez-moi tranquille. Donc c'était plutôt drôle. Écoute, voilà, visiblement ça t'a fait marrer. Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Encore de la même manière que pour le trio Aiden English, Rusev, Orton, j'ai trouvé que pareil, ça se goupillait pas trop mal. C'était plutôt bien fichu ce segment, encore une fois, dans sa globalité. Le match qui n'a pas lieu, why not? Parce qu'en effet, ça pourrait plutôt être un match de pay-per-view,
On
donc
a,
ça, c'est pas
en
mal.
fait, on a encore beaucoup de temps avant le pay-per-view, donc.
Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de temps. Ça aurait été finalement assez dommage de faire une défense de titre un peu gratos comme ça. Bon, peut-être qu'il y en aura une qui arrivera avant le pay-per-view, mais bon, en tout cas, c'était tôt, donc ça, c'est bien. Le Ty Dillinger qui arrive et qui s'interpose et qui vient se venger, j'ai trouvé que c'était sympa aussi. J'en ai marre un petit peu des. Sauf à de rares exceptions, parce qu'il y a des personnages pour qui c'est juste pas compatible, genre des Cena, des Bayley, des trucs comme ça, mais j'en ai un peu marre des faces qui finalement se font tabasser la tronche et puis la semaine d'après ne répliquent pas du tout, sauf à demander un match un contre un, nanana et tout. Donc là, finalement, Corbin, il l'avait bien cherché, cet enfoiré, donc il a bien mérité que Ty Dillinger vienne lui pourrir son coup à lui aussi. Donc ça, c'était bien. Et puis après, bah, la promo backstage, c'est pareil que Rousseff, en fait. Parfois, il suffit pas de grand chose, mais je trouve qu'il y a des petites promos de 30 secondes qui sonnent parfois mieux que des promos de 3 minutes, 4 minutes.
Exactement.
Parce qu'en fait, cette promo, pourquoi est-ce qu'elle est bien? C'est parce qu'en fait, elle te donne, je trouve, personnellement, surtout que c'était un des soucis, je pense, de Corbin un petit peu. Nous, on l'aime bien, mais de manière générale, il suscite pas non plus une réaction de dingue, ce mec-là. Il connecte peut-être pas forcément avec le grand public, qui ne trouve peut-être pas des raisons de le détester, concrètement, hormis ses tabassages, tabassages. Et en fait, là, le coup du, il commence à basculer vraiment dans un personnage, c'est le bully, quoi. Enfin, tu vois, genre, c'est le la brute des cours de récré, hein, qui cogne sur tout le monde, mais par contre, dès que ça tourne pas en sa faveur, d'un seul coup, il change complètement de disque. Et j'ai trouvé que cette promo était carrément là-dedans, où là, d'un seul coup, on venait de lui casser sa petite cheville, là, et qu'est-ce qu'il y a? Je me suis fait violer, je comprends pas, alors que le mec, c'est le premier à balancer des calistos dans les poubelles quand il peut et tout. Donc, je trouve que c'était assez marrant parce que ça donne vraiment envie de le voir se faire défoncer encore et encore. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que du coup, ça donne des raisons au public de continuer à le voir se faire maltraiter, ce qui est exactement ce qu'on attend d'un heel. Donc voilà, en 30 secondes, je trouve que c'était plutôt bien fait. Donc voilà, mon avis.
Mais écoute, effectivement, on a un peu. C'est vrai qu'on peut faire un petit parallèle avec Rusev, Orton, et puis Aiden English, qui était le troisième larron, un peu imbriqué là-dedans, avec ce qui vient de se passer là. Effectivement, c'est. Il y a des belles constructions de personnages plus subtils et on fait peut-être un peu plus appel au naturel, enfin voilà, vraiment des catcheurs, quoi, et on leur fait peut-être un peu plus confiance, ou je sais pas, c'est peut-être de l'impro, ou voilà, et peut-être. Comme tu dis, peut-être que toutes ces semaines-là, jusqu'au prochain pay-per-view, s'ils sont,
S'ils sont appliqués un
s'ils sont,
peu.
voilà, s'ils sont appliqués et impliqués, à la fois les scénaristes et les catcheurs, c'est le bon moment pour construire des personnages, vraiment, les personnages qui sont en déficit d'amour ou juste, ou de haine, quoi, ou qui ont besoin d'être replacés, etc. Pas, il n'y a pas. Ça manque de match, et ça c'est sûr, on pourra à la
Oui.
fin, quand on fera le bilan comptable, il n'y aura pas eu encore beaucoup de catch cette semaine. Mais si ils en profitent pour justement s'appliquer à construire, à laisser du temps aux catcheurs pour s'exprimer et dans des séquences comme celle qu'on vient de voir là, ben effectivement ça va nous permettre de s'approprier hein, finalement tous ces catcheurs, ces personnages, avant les grands rendez-vous de pay-per-view. Et finalement, ça aide aussi à ce que la carte soit enfin qu'on attende les matchs, hein.
Plus intéressante,
C'est
voilà,
ça.
plus
Là, maintenant, moi,
intéressante.
j'attends vraiment le match de AJ Styles avec le Baron et pourquoi pas, pardon, une fameuse triple threat avec Teddy Dillinger, tout comme Rusev versus Orton, s'il s'applique bien, on sera peut-être impatient ou en tout cas intéressé par cette affiche, qui est rarement le cas quand il y a une affiche avec Randy Orton. Voilà, on n'est pas forcément. Mais bon, voilà, qui mettent à profit le temps qu'il leur reste.
Mais SmackDown a besoin de ça en ce moment, tu sens quand même.
Ouais. Bon, alors par contre là, on va parler d'un sujet qui fâche. C'est peut-être justement un mec qui a beaucoup de temps pour s'exprimer, peut-être trop. C'est quelqu'un qui a une ceinture, c'est quelqu'un qui n'est pas américain, c'est quelqu'un qui s'appelle Jinder Mahal. Et Jinder Mahal, ce soir, il va nous faire un mime internet de 15 minutes là sur ce fameux concept de Shinsuke Nakamura, toujours la même gueule, quoi qu'il fasse, quoi qu'il veuille exprimer. Donc il est sur le ring avec ses deux sbires et il nous montre toujours encore et encore la même photo de Nakamura en disant regardez la tête qu'il fait quand il est en colère ou quand il est content ou quand il vient de perdre un match, voilà à quoi ressemble Nakamura. Donc et puis écoute, ça va pas forcément beaucoup plus loin que ça. Pendant ce temps-là, ces deux sbires en font des tonnes. Je crois pas que j'oublie quoi que ce soit en fait. Ça m'a tellement. Je vais faire un facepalm ce truc que. À la fin. Ah oui, si, à un moment donné, il met un petit tacle en parlant de. En faisant référence à un autre catcheur japonais, je crois, ou.
Ah non non non, il l'appelle Mister Miyagi, mais
Ah oui, mais c'est ça.
c'est le mec de Karate Kid, ça c'est le grand maître, c'est le grand maître dans
Ah
Karate Kid
putain.
machin, donc non non, c'est juste encore une blague raciste
Ouais, c'est ça, et le public chante that's too far, ça va trop loin, ça va trop loin, et voilà, et on a toujours encore ce Jinder Mahal qui essaye de mettre face à Nakamura, face à la vérité qui est les Américains sont tous des gros racistes, mais regarde, moi aussi j'utilise des stéréotypes pour te montrer que les Américains sont des gros racistes, enfin bon. Giscal, toi qui étais loin de tout ça pendant quelques semaines, qu'est-ce que tu penses là de ce qui est en train de se passer? Est-ce que Jinder Mahal met à bon profit justement le temps qu'il a avant le pay-per-view?
Non, pas vraiment. non, pas vraiment. Mais en même temps, enfin, il récite les textes qu'on lui demande de réciter. Donc moi, j'ai pas de problème avec Jinder Mahal en fait sur ce segment. J'ai des problèmes avec les bookers. Mais il y a un problème depuis un moment. Il y a un problème de booking avec lui parce que en soi, au risque toujours de hérisser quelques poils et tout, je trouve que Jinder Mahal fait un excellent champion heel de la WWE. Il a le look, il a le charisme, il a un truc et tout. Mais on le book mal, parce qu'on lui fait faire quatre fois de suite le même match entre Orton et Nakamura. On le book mal parce qu'on lui fait faire des promos catastrophiques là comme cette semaine où
Ah, punaise.
où on lui fait sortir. Enfin oui, on a l'impression de voir une andouille, enfin oui raciste, sortir des clichés, mais. C'est pas. En fait, c'est ni drôle ni agaçant. Donc, en fait, ça ne suscite rien à part, oui, le that's too far du public, mais qui est même pas de la très bonne hit, je pense.
Non.
Enfin, c'est pas quelque chose sur lequel, en fait, les bookers devraient se réjouir et s'appuyer pour les semaines d'après. Je pense que c'est juste quelque chose qu'il faudrait abandonner. Après, j'ai envie de dire aussi, est-ce que le truc. Est-ce qu'on n'est pas tout simplement pénalisé par le fait que Shinsuke Nakamura ne peut pas faire une putain de promo.
Eh bien, alors justement, effectivement, tu fais bien d'en parler, parce que juste dans la foulée, Nakamura s'était interviewé, et grosso modo, il a dit, ah ouais, c'était très drôle, mais ce qui sera moins drôle, c'est quand je vais gagner le titre au pay-per-view. Fin.
Wouhou! Voilà.
Fin de merci Shinsuke, c'était le seul moment où on a vu Shinsuke, et c'était sa promo, quoi.
Ouais. Donc, est-ce que ça joue pas un petit peu aussi? Parce que, bon, voilà, c'est pas bon ce que fait Jinder, mais en même temps, il récite ce qu'on lui dit de réciter. Moi, je trouve qu'il, on va dire, à la limite, si on fait abstraction de ce qu'il dit, il le fait pas trop mal. Bon, voilà, après, ça, c'est mon avis. Mais ouais, ils sont pas du tout inspirés sur la façon de gérer son personnage. Alors que, je sais pas, il y aurait mille façons de rendre. En plus, il a deux sbires qui sont, moi, je trouve qu'ils sont top, hein, les deux petits Singh Brothers. Là, ils sont, c'est exactement on l'a dit, on l'a répété, les deux petits moucherons insupportables que t'as envie de voir se faire exploser semaine après semaine. Mais je sais pas, ils arrivent pas à le mettre dans une autre situation que celle qu'on a vue depuis 3 mois en fait. Et c'est un peu dommage parce que je pense qu'il y a plein de trucs à faire. C'est vraiment une excellente. Moi, je trouve que c'est une bonne expérience de champion heal. Mais voilà, peut-être que le choix d'adversaire non plus n'est pas
Le
optimal.
problème, c'est ça. C'est le problème, c'est le choix de l'adversaire. Enfin, non. Le problème, c'est les scénaristes
Oui,
et
ça
ceux qui.
c'est
Voilà, ça,
d'abord ça.
c'est d'abord ça, parce que peu importe qui tu veux. Enfin, quels sont les rivaux, tu peux pas écrire de la merde comme ça, quoi. Tu dois.
Non.
Ou alors, si tu t'en rends compte, tu switches et tu passes à autre chose. Là,
Et puis
il
ouais,
persiste.
et puis je sais pas en quel honneur, Nakamura qui est censé être un mec super dangereux, qui strong style, badass et tout, genre il va se faire insulter comme ça pendant combien de
Toutes
temps
les
en fait?
semaines, toutes les semaines.
Il rigole, il est là, oui, je vais prendre la ceinture et c'est tout. Enfin, genre,
Ouais.
c'est. Moi, à la limite, je suis presque plus énervé là-dessus, en fait, que des promos de racistes de merde, on en a vu plein, c'est pas la première fois. On va pas tomber sur Jinder après 20 ans de promos comme ça. Mais je sais pas, il y a un problème de booking, quoi.
Non, Nakamura clairement n'est pas booké de la meilleure des façons, comme tu le dis. On réentend encore des fois des mecs qui parlent de The Artist. Enfin, ils savent pas, ils savent plus. Est-ce que d'un coup c'est le Strong Style, après ils reviennent sur The Artist, et puis du coup personne ne sait qui est vraiment Nakamura, personne ne sait comment le booker. Lui, il donne pas l'impression de vouloir aller plus loin que ce qu'on lui dit ou donne de faire. Hein. Il est juste surtout venu faire du surf, quoi, Nakamura, hein, je pense. Hein. D'ailleurs, une petite photo sympa où il est parti. Tu sais avec qui il fait du surf en ce moment?
Non,
Parce que non, Nakamura est un passionné de surf, hein, il vient
c'est vrai.
toujours avec sa planche.
Très bien, très
Et
bien.
ben là, en ce moment, il surfe avec James Ellsworth. Donc t'as une
Non,
photo sur
c'est
Instagram où tu vois les deux
rigolo
torse poil sur la plage, hein, bah, comme ils étaient à Oakland, voilà, ils étaient en Californie, et à la plage, son partenaire de surf, c'est James
ça. Eh ben,
Ellsworth.
putain,
Tu vois pas,
incroyable.
quel père quand même, quel duo.
Quel
Écoute,
duo, ouais.
ouais, non, 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 c'est lamentable. C'est lamentable d'un bout à l'autre. Hein. Nakamura, là, il y a un gros problème. Là, ça ne leur sert pas, justement. Autant il y en a d'autres que ça peut servir tout ce temps jusqu'au pay-per-view. Là, on a juste envie qu'ils fassent le match la semaine prochaine et que.
Ouais, tu te dis que s'il y a encore, parce que je sais pas quand est-ce que c'est Hell in a Cell, mais s'il y a encore 4 semaines,
Il y a un bien bon mois là, hein, je crois.
ça va
Hein.
être long. Et encore, moi, je me suis fait épargner 2 semaines de SmackDown, mais ça peut être long.
Bon, un autre. On va passer à autre chose si tu veux bien, mais ça risque
Oui.
d'être pas forcément plus fun, puisqu'en fait, on va parler d'un autre cas qui est assez proche, assez semblable, qui nous casse les couilles toutes les semaines avec la même merde. C'est Dolph Ziggler. Dolph Ziggler, donc, il nous fait son one-man show habituel, hein, c'est le fameux moment gênant de Dolph Ziggler. Alors, cette fois-ci, Dolph Ziggler, il a fait du cosplay de Triple H, de Shawn Michaels, puis de la DX. Donc, voilà, hein.
Qu'il y avait un thème
Il y avait
là.
un
Ouais.
thème, il y avait un thème, soirée à thème, et puis à la fin, toujours pour nous servir la même soupe, à savoir qu'on n'est pas digne, qu'on ne comprend pas, qu'on n'apprécie pas le talent in-ring de Dolph Ziggler, mais qu'à la moindre thème song, les gens sont debout à applaudir, et ça se termine là-dessus. Globalement, comme tu n'en as pas parlé, quel est ton ressenti sur cette nouvelle piste-là, cette histoire de Dolph Ziggler?
Bah écoute, je n'ai pas trouvé ça terrible, terrible. Surtout qu'en plus, je me disais, allez, si c'est un one shot, ça peut être marrant. Sauf que j'ai cru comprendre que ça faisait plusieurs semaines qu'il faisait ça. Donc, du coup, déjà, vu que j'ai pas trouvé ça incroyable cette semaine, je me dis que pour ceux qui en ont bouffé depuis 3 semaines, c'est peut-être vraiment, ça doit être vraiment lourd. Ouais, je vois pas trop le truc en fait, parce que en fait, c'est toujours la même chose avec Dolph Ziggler. On pourrait en parler longtemps et faire un épisode sur le cas Dolph Ziggler et pourquoi. Enfin, moi, j'y crois pas au Dolph Ziggler ultra talentueux et sous-coté, sous-utilisé.
Encore moins aujourd'hui avec le roster qu'on a, quoi.
Ouais, encore moins aujourd'hui avec tout le roster qu'on a. Et bon, allez, alors le problème, c'est qu'en plus, c'est maintenant, il le dit ouvertement, c'est la soupe qui nous vend et tout. Mais déjà, de base, quand il était face et qu'il nous faisait ses promos enflammés, bon, quand c'est contre le Miz, avec l'histoire qu'ils avaient.
Ah, ça marchait bien, là, quand même.
C'était bien, mais le truc, c'est que même quand il l'a fait contre le Miz, il l'avait fait déjà 10 fois avant.
Oui.
Et cette promo-là, qu'il soit face ou qu'il soit heel, le truc, c'est qu'en fait, on n'y croit pas parce que le mec, il a eu des title shots dans tous les sens. Il a eu une carrière.
Il a un beau palmarès. Hein,
il a un palmarès.
On a tendance à délibérément l'oublier.
Oui, il a un palmarès que 90% du roster, mais genre, ils vendraient leur mère et leur père pour avoir son palmarès. Et quand tu vois en fait où il en est aujourd'hui avec sa carrière et l'âge qu'il a, parce qu'il est encore, il est encore tout à fait capable de faire des trucs de fou. Je sais pas quel âge il a. 21 ans, Dolph Ziggler quand même. Et du coup, tu te dis, mais en fait, s'il était si bon que ce qu'il nous racontait tout le temps depuis des années, et qu'est-ce qui serait en train de faire des boosts comme ça? Ouais, ah non, il a 37 ans, ouais.
Oui, non, mais c'est une grosse vanne, évidemment qu'il n'a pas 20 ans.
Non, je sais, mais je suis en train de me dire, il doit avoir 34, 35, un peu
ça. Il est plus tout jeune. Il
s'approche de sa quarantaine. Mais, est-ce que c'est vraiment, parce que ça fait des années qu'on se dit, c'est du gâchis, Dolph Ziggler, c'est du gâchis. Est-ce que c'est vraiment du gâchis? Parce que, on lui a tout donné, mais le problème, c'est que t'as toujours l'impression que c'est un disque rayé, quoi. C'est toujours la même chose. Toujours la même chose, et à chaque fois qu'on sent une petite lueur de retour, il retombe 3 semaines après et il est oublié et puis on n'entend plus parler.
Ouais.
Donc
au-delà de ce grief général, effectivement, là où moi ça m'emmerde, c'est que l'idée là de piquer les entrées, etc., pour faire réagir le public et le prendre un peu à brousse-poil, toi. C'est très mal exécuté parce que il nous l'annonce à chaque fois. Imagine,
oui.
Là, avec cette histoire en plus de rivalité avec les McMahon et Kevin Owens, entendre le theme song de Triple H.
Ouais.
Enfin, tu aurais fait waouh, putain, Triple H, il se déplace et tout. Et là, tu le prends le public vraiment en rebrousse-poil. Et puis c'est terminé. C'est ce qu'il a fait la semaine dernière avec la musique de Shane McMahon.
Non, mais puis bon, bah, en plus, il le cherche au bout d'un moment, les mecs, parce que du coup, ils se sont pris du CM Punk pendant tout le segment. Ils voulaient la musique de CM Punk, genre vas-y, tu nous fais quoi après et tout.
Je crois qu'on est à Chicago semaine prochaine.
Il va bouffer s'il continue, c'est sûr. Hein. Bon, après, ils peuvent le tenter.
Ah, ce serait énorme.
Ils peuvent le tenter. Mais bon, écoute, je sais pas ce que c'est que le plan in fine de ce segment-là.
Les étoiles sont alignées pour Bobby Roode, quoi, qu'on a
une fois
de plus pas vu cette semaine. Bah, Bobby Roode absent, l'équation c'est Dolph Ziggler égale mec qui est là pour accueillir les nouveaux. Bobby Roode absent depuis quelques semaines, plus ses promos sur les entrées, etc., qui font lever les sièges, ce qui est
marrant. Ce serait marrant qu'il fasse l'entrée de Bobby Roode.
Mais bon,
regarde comment on fait.
Le problème, c'est que si c'est vraiment ça, tu veux dire bah ok, merci, on le savait, enfin on avait tous compris, quoi.
3 semaines. Bon, écoute, en tout cas, voilà, le public n'en a rien à faire, ça veut tout dire, et donc, bon, bah, du coup, moi, j'en ai pas grand chose à faire non plus.
Bon, écoute, on va rapidement enchaîner sur la division tag team. Cette semaine, il y avait un match entre les New Day et les Highbrows. Les Highbrows, hein, qui sont de retour. Donc, tu as vu, hein, les New Day, on en avait parlé, New Day qui reprennent leur titre, t'étais en vacances ou pas?
J'étais en vacances, mais j'ai suivi ça.
T'as vu ça? Putain. Et les Wizzo, donc, ils sont en commentaire. Bon, voilà, on a le match. Je vous épargne la description. À la fin, c'est Kofi qui fait le tomber sur Zack Ryder, si j'ai pas de conneries. Backstage, on a les Highbrows qui semblent comprendre qu'il va falloir faire quelque chose là pour retrouver le chemin du succès.
Quelque chose de drastique.
Ouais, quelque chose de drastique. Donc, on joue un peu moins la partition Zack Ryder qui veut un petit peu Canamar et qui veut se barrer. On revient un peu plus sur les Highbrows commencent à se poser des questions. Ils ont l'air d'être d'accord sur le fait qu'ils y arrivent pas, que ça, la chimie.
Ça sent le heel turn, tout ça. Hein.
Ouais, en tout cas, moi, je suis content, c'est qu'ils les split pas. S'ils les split pas, c'est une bonne chose parce que
Ouais,
c'est une
ils ont
bonne
pas
tag
leur
team.
place. Ouais. Puis ils ont pas leur place en solo, je pense,
Non.
actuellement. Donc du coup, c'est en effet, je suis d'accord, c'est bien qu'ils les gardent ensemble. Ça sent le heel turn. Écoute, pourquoi pas avec les débuts d'une nouvelle équipe face que, enfin moi, en tout cas, je l'ai toujours pas vu cette équipe là, Shelton et Chad Gable. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais du coup, ça peut faire des bons adversaires pour eux parce qu'il faudra une autre équipe heel avec les Usos. Donc c'est bien, c'est bien.
Ouais, exactement. Et donc voilà, donc une affaire à suivre. Voilà, pas beaucoup de temps pour la division tag team cette semaine. Toujours pas de Fashion Police. Hein,
Ouais, je suis très triste, ça
là, c'est
j'ai.
assez étrange. Pourquoi on ne les voit pas? Parce qu'ils nous avaient quand même annoncé leur retour dans 2 ou 3 semaines. Enfin voilà, ça fait un petit bout de temps qu'on était censé les voir. Et ils sont plutôt à 205 là. Je sais pas si tu as vu cette petite séquence à 205, à
Ah non,
205.
non,
Il
j'ai
y a une petite séquence, regardez sur YouTube. Ils ont hijacké le show, ce qui est assez rare, hein, quand ils mélangent les rosters, les divisions. Ils sont allés arrêter un catcheur qui. Donc la Fashion Police est intervenue. Il y a une petite séquence assez drôle
C'est vrai?
où ils s'en prennent à Drew Gulak, à 205 Live. Voilà, je vous invite à chercher ça. Enfin, vous tapez Fashion Police 205 Live et vous les trouverez. Hein. On termine avec ce qui a justement terminé le show, même si c'était en deux parties. La division féminine qui veut nous faire croire qu'ils veulent reprendre du poil de la bête. On a tout d'abord une première séquence avec Charlotte Flair qui est de retour. On se souvient que son papa a croisé le regard de la faucheuse et lui a dit pas maintenant. Donc tout va bien pour Rick. Qui est de retour. Charlotte remercie les fans. Elle a écrit un livre, visiblement, avec la préface signée par son papa. Ils ont
Paraît-il.
écrit ça à l'hôpital, sur le lit d'hôpital. Charlotte promet qu'elle compte bien saisir pleinement chaque moment dorénavant de la vie. Natalia intervient. Elle a transformé ce premier moment justement en célébration des femmes. On a tout un speech sur la révolution féminine, etc., etc. Elle parle voilà des grandes femmes de ce monde, Oprah Winfrey. etc. Et elle dévoile un tableau, elle est venue avec un tableau, elle dévoile un tableau en l'honneur de la plus importante d'entre toutes, évidemment c'est une photo de Natalia avec le titre. Charlotte réclame un title shot et Becky Lynch, la musique de Becky Lynch retentit, Becky Lynch qui est de retour, elle vient faire la même, elle dit bah, écoute, moi aussi je veux un title shot, je sais plus comment elle le présente, mais elle dit écoute, moi aussi.
Non, mais elle dit qu'elle veut, oui, la ceinture doit revenir à sa vraie
Ah
championne,
ouais,
c'est moi.
voilà, une promo qu'on attend depuis un an.
Oui, c'est ça.
Par contre, là, ça commence, on se dit, ouais, les trois là, ok, d'accord, ça sent bon, toi. Et puis là, ça commence à sentir un peu mauvais quand la musique de Naomi retentit, suivie de celle de Tamina. Alors on se dit, oh putain, toute la division féminine revient. Natalia ne veut pas en entendre plus, hein, parce que ça chamaille. Hein, j'aime bien comment ils disent ça en américain, c'est Revolving Doors.
Ouais,
C'est
c'est
vraiment la
séquence
séquence
Revolving
saloon,
Doors.
voilà, c'est la séquence saloon où t'as un mec qui
Ouais.
entre toutes les 2 minutes dans le saloon. Daniel Bryan arrive et il officialise le. Alors ça porte bien son nom justement, le Fatal 4-Way qui va déterminer donc First Contender pour Hell in a Cell. Donc on aura un match opposant les 4 prétendantes ce soir. Alors toi, il le garde même pas pour la semaine prochaine. Typiquement,
Non, ce soir. Voilà.
habituellement, il garde, voilà, c'est la semaine prochaine, mais ils vont nous donner ça, on va pas attendre plus longtemps. Donc on a un match pas extraordinaire. C'est notre main event qui oppose les filles. On a rapidement. En fait, ça ressemble pas mal au match qu'ils avaient eu par échelle où t'as Tamina qui nettoie un peu le ring au début pour montrer qu'elle est grande et forte et costaud. Après, on a Naomi qui place un jawbreaker sur Charlotte, un petit roll-up et Becky qui vient casser le roll-up. Qui place son disarmer sur Naomi, Tamina qui vient nettoyer tout ça, grosse pire hein, de Charlotte sur Tamina. On avance, Charlotte qui passe le figure four sur Naomi, Becky Lynch vient à nouveau casser le tombé. Samoan drop de Tamina, super fly splash, pardon, mais c'est Naomi qui vient casser. À la fin, on a un big boot sur Tamina, je crois. Ouais, c'est ça, Tamina
Ouais.
qui se prend donc le tombé 1, 2, 3. Donc c'est Charlotte qui sort vainqueur de ce Fatal 4-Way. Écoute, j'ai envie de dire, tout ça pour ça. Pourquoi avoir fait un Fatal 4-Way alors que enfin ça s'écrivait tout seul quoi.
Ouais, alors non, ça me dérange pas qu'ils aient fait un Fatal 4-Way parce que
Oui,
il y
d'un
avait
point
pas
de vue
de
management, on
ouais, il
reset.
y avait pas trop de raisons que Charlotte ouh, c'est moi et tout, Becky Lynch avait ses droits, Tamina pourquoi pas, Naomi ancienne championne. Non, bon, ça, à la limite c'est bien. Moi par contre, je suis assez d'accord, tu disais oui, en effet, on l'a eu dès cette semaine, j'aurais bien vu bah, ils auraient pu le garder pour la semaine prochaine, tu vois, dire que c'est le main event de la semaine prochaine, en faire un gros truc, tu vois, genre le builder un petit peu.
Ouais.
Et puis cette semaine, ils nous auraient mis, j'en sais rien, Kevin Owens contre Jinder Mahal ou un truc, enfin bref, je sais pas, un autre main event, n'importe quoi. Du coup, non, ils ont voulu le faire tout de suite, donc ça, je pense que c'est une petite erreur parce que du coup, ça bâcle un peu la chose. Et puis en plus, ça veut dire que derrière, on va se taper. Alors combien? Du coup, un gentil auditeur nous a dit que le Hell in a Cell c'était le 8 octobre, je crois. Hein,
Ouais,
c'est
donc
Tristan. Merci à
ouais.
Tristan.
C'est moins long que ce que je pensais.
Donc c'est en effet moins long que. Mais bon, ça fait que. En fait, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est les promos qu'il va y avoir maintenant, parce que.
Ah putain, ouais.
Donc déjà la promo en tant que telle, j'en ai pas parlé. Ouais, on est dans le Revolving Door segment là. C'est pas ce que je préfère, mais c'est ce que manifestement les bookers de SmackDown préfèrent, puisque. Toutes les semaines, genre, enfin, dès qu'il y a des segments féminins, de toute façon, c'est toujours comme ça. Elles finissent au moins à 4 dans le ring, c'est sûr.
Bah, c'est là où je voulais en venir. Effectivement, ça aurait peut-être été entre guillemets injuste vis-à-vis de Daniel Bryan qui tout d'un coup accepte que Charlotte ait un title shot. Mais ce que j'aurais aimé justement, c'est qu'on évite cet écueil de
Ah
Revolving
bah,
Door, quoi, et que la
mais ils
promo de
savent pas quoi
Charlotte
faire
et même celle
d'autre.
de Becky Lynch qui arrive derrière, où là, ok, d'accord, pourquoi pas, toi. Et puis derrière,
Ils
voilà.
savent pas quoi faire d'autre parce que de toute façon ils sont incapables de se fixer sur un gros programme et construire autour et faire des rivalités et tout machin. Ils continuent, ça fait depuis le début de l'année de toute façon qu'elles sont toutes mixées dans un sac et tout. Donc,
Raton.
et puis alors là par contre, alors tout le segment, moi ça m'a fait c'est cringe en anglais là, je sais pas comment tu peux te. Enfin, ça m'a mis mal
Nier
à l'aise quoi, ouais,
quoi,
enfin ça m'a fait grincer des dents
ouais.
pendant tout le truc là. C'est alors la gimmick de Natalia maintenant là, c'est la crazy old cat lady là,
Ah
j'ai l'impression.
oui. I'm not a crazy old cat lady.
Tout le monde la traite de folle, manifestement tout va bien. Enfin, c'est la championne de la division, tout le monde la tourne en ridicule, la traite de folle, elle se barre, je suis pas une machin, et elle se tire. Bon, super.
Ouais, t'as Becky Lynch quand elle arrive, elle lui dit qu'elle était, qu'elle est la plus grande folle qui était, qui est, qui sera,
Oui.
évidemment, référence à Bret
Voilà.
Hart.
Oui, je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de construire une championne. Bon, voilà. Enfin, ça se trouve, elle va peut-être perdre sa ceinture assez vite. Hein, j'en
Non,
sais rien.
après, ce qui peut être encourageant, enfin encourageant, voilà quoi, la petite lumière au fond de ce long tunnel de la division féminine, c'est que la rivalité Natalia versus Charlotte Flair, en tout
Ça,
cas,
par contre, c'est bien.
c'est une bonne rivalité, parce qu'elle a déjà eu lieu à NXT, et je crois qu'elle a eu, il y a eu des frémissements aussi à un moment
Ah
donné dans le roster.
oui.
C'est quelque chose de fond qui fait, c'est ce genre de rivalité. Qui dure tout le temps en fait, parce
Oui.
qu'effectivement, elle fait appel à ces deux anciens champions, la paternité, etc. Enfin, il y a vraiment quelque chose, l'héritage.
Oui, non, indéniablement, c'est on rentre sur un programme beaucoup plus solide
C'est
que
ça.
ce qu'on a pu avoir pendant des mois avec Naomi, Naomi Lana, Naomi, je sais plus quoi. Enfin
Lana
bref,
qui,
tout ça.
effectivement, hein, j'en ai pas parlé, mais qui est évidemment le manager
Oui,
de
ça y est, maintenant
Tamina.
il est officiellement manager. Donc écoute, non, mais c'est bien. Charlotte, Natalia, quoi qu'il arrive, c'est bien. Je suis sûr qu'elles feront des super matchs. Moi, j'ai juste un peu peur de l'angle là, de la gimmick que ça prend. Ah oui, et puis un petit coup de chapeau parce que du coup, j'avais oublié. Mais pour le début de la promo en fait de Charlotte, j'ai trouvé. Bon, après, c'était facile. Elle parlait de son père et puis il s'est passé des trucs graves et tout. Donc, je pense que c'est plus facile d'incarner à ce moment-là. Mais on a plutôt connu des monologues de Charlotte en heel quand même, parce qu'historiquement, elle est heel. J'ai trouvé que c'était le premier segment face, on va dire, où elle arrivait à mettre un peu d'émotion et elle était attachante, elle était touchante et tout. Et je trouvais que c'était la première fois qu'elle arrivait vraiment à faire un truc pas trop mal en face. Donc,
Ouais,
voilà, je
oui,
trouvais que
avec
c'était bien.
son petit discours là, qu'elle va chaque moment faire un moment important, etc. Ça colle bien parce qu'effectivement, voilà, elle a eu une expérience ce genre d'expérience, voilà,
Compliqué, hein. Oui.
qui te fait ouvrir les yeux, tu dis, ah bah maintenant je vais croquer la vie à pleines dents, etc.
Ouais,
Et, et...
puis c'est un bon rappel de la rivalité qu'elle a pu avoir avec son père, donc c'est
C'est
bien.
ça, voilà. Et puis ça remet en avant le côté compétition, hein, que ces filles sont censées avoir, Charlotte et Becky Lynch, sont censées être des
Des
catcheuses
catcheuses, quoi.
qui ont soif de victoire et qui doivent courir après la ceinture et régner sans partage sur leur division.
Exactement.
Becky Lynch, elle s'est perdue là, pendant des mois. Genre, juste, elle n'avait rien à foutre de perdre occasion sur occasion. Donc là, ça fait bien. Bon, voilà, il fallait qu'il y ait une seule pouvait sortir championne, enfin, gagnante du Fatal Four Way. D'ailleurs, j'espère qu'un programme intéressant s'annonce pour Becky Lynch. Parce que ce serait dommage de ne pas continuer sur cette nouvelle lancée. Bon, écoute, en tout cas, c'est comme ça que se terminait cet épisode de SmackDown. C'est l'heure du mot de la fin. Giscal, quel est ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît?
Alors, mon top facile, hein, c'est Rusev number
Ah
one.
putain, oui, carrément.
C'est sa petite promo de 20 secondes qui m'a illuminé mon émission. Donc, très bien, bravo. En fait, j'ai envie surtout de voir Rusev continuer. Enfin, j'espère qu'on va lui donner carte blanche et qu'il continue à s'éclater et tout, parce que quand il était revenu contre Cena, on l'avait bâché un petit peu sur son manque d'implication. Là, s'il peut genre irradier l'écran comme ça chaque semaine pendant sa feud contre Orton, bah écoute, tout sera pardonné et ce sera très bien. Et mon flop, bah écoute, c'est trop facile de taper sur la promo de Jinder Mahal, donc je vais aller dans la lignée de ce qu'on s'est dit du coup de gueule. Je vais le donner à Nakamura, le flop, parce que je pense vraiment, bon après, soi-disant, il a un talent dingue et tout. Moi, j'en sais rien. J'ai jamais vu le mec avant et tout. Donc, je me dis qu'il finira toujours par s'en sortir. Mais je pense que il pénalise énormément SmackDown en fait, de par son inaptitude à parler anglais et les rares matchs qu'il fait en weekly à ne pas se sortir les doigts du cul. Et je pense que mine de rien, c'est plus un boulet que finalement qu'un talent vraiment dans le roster de SmackDown aujourd'hui, parce que quel que soit le mec contre qui tu le mets, j'ai pas l'impression que c'est lui qui va il va pas réussir à porter un truc quoi. Donc
Non.
moi ça me fait un peu, voilà, peut-être que je vais choquer des puristes, mais je trouve qu'aujourd'hui Nakamura, moi je limite ça m'emmerde presque qu'il soit dans des gros trucs à SmackDown
Bah
quoi.
non, mais une fois de plus, faire grincer des dents, pourquoi pas, mais c'est justement... Enfin, on sait ou on se doute, en fonction de vraiment si on a suivi un peu sa carrière avant, ou même en ayant regardé NXT, on avait vu d'autres choses, en tout cas au tout début d'NXT, parce que même toute son run à NXT n'a pas été très flamboyant, en tout cas sur la fin. On sait ou on se doute hein, qu'il peut faire mieux et qu'il peut justement... Il peut y aller, donc le fait de dire que là aujourd'hui à l'heure actuelle c'est un boulet pour SmackDown, bah ouais c'est effectivement c'est vrai quoi, c'est vrai parce que de par son statut il
Oui.
oblige
Oui.
forcément, après c'est la WWE qui l'a engagé, hein, mais il oblige la WWE à le garder en tête d'affiche puisqu'il est présenté comme un main eventer enfin, sans aucune justification nécessaire. Et donc il est légitimement, d'un point de vue booking de cartes, dans la title
Oh,
picture, tout
ouais.
en haut, mais ça ne délivre pas, quoi.
Non, 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 et ça commence à faire un petit moment.
Ouais. Donc
Moi, je me
non, ouais,
demande,
ça...
on aura l'occasion d'en reparler, je pense, ça, à l'avenir. Peut-être on pourra en discuter avec des professionnels comme Ringside et tout, mais est-ce que, finalement, non,
Professionnel.
mais est-ce que
Il est en train de dormir, le professionnel.
Ouais, il dort le pro là. Mais est-ce que c'est... on verra, l'histoire nous le dira. Est-ce que c'est pas une erreur de casting pour la WWE, Nakamura? Est-ce qu'il était pas est-ce qu'il est vraiment fait pour le programme WWE en fait? Est-ce qu'il est pas uniquement destiné à un public de puristes au Japon, à NXT où ça marchait parce que le public est complètement différent à NXT? Est-ce qu'il est vraiment fait pour est-ce que pour la WWE le main roster? Je sais pas. Aujourd'hui, je me pose la question, et vu le pédigré du mec, le simple fait de se poser la question, je trouve, est inquiétant.
Ouais.
Mais bon, voilà, voilà.
Et ta note.
Et puis bah ma note parce qu'on je parle. Je vais mettre la moyenne cette semaine seulement pour mon retour. Je vais mettre 2,5 parce que j'ai trouvé qu'il y avait eu pas mal de bonnes choses en début d'émission. Il y a eu une bonne moitié des bons programmes avec Shane McMahon, avec AJ Styles, Baron Corbin, avec je sais plus. Enfin bref, on a parlé. Il y avait eu des bonnes choses. Et puis il y a vraiment des trucs qui ont vraiment plombé l'émission avec Nakamura, Jinder Mahal, avec Ziggler, avec les femmes qui restent un peu en demi-teinte aussi. Voilà, je vais mettre la moyenne. Je trouve que très inégal cette semaine.
D'accord. Très bien. Mais écoute. Comme quoi, hein, la synergie est totale, puisque j'ai exactement le même top et le même flop que toi, et je n'ai même pas envie d'en changer. C'est souvent, on est là, bon, ok, je vais en donner un autre histoire de varier, mais là, ouais. Pour moi, Rusev, t'es juste, il m'a fait tellement plaisir dans sa séquence backstage, avec en plus sa petite victoire que je trouvais très, très, très intelligente. Voilà, je peux pas, faut pas bouder son plaisir. Et Nakamura, effectivement, là, c'est, voilà, il faut alerter les autorités, là.
Ouais, attention.
Et par contre, j'étais un petit peu plus généreux sur la note. J'ai mis 3,25 parce que malgré tous les griefs qu'on a cités, j'apprécie vraiment le travail d'écriture sur les personnages qui sont faits, sur ceux dont on a parlé positivement, évidemment. Notamment
oui,
les deux rivalités, celle de Kevin Owens, celle avec AJ Styles, le Baron, Rusev. Tout ça, je trouve que c'est vraiment bien écrit et on a laissé beaucoup de place. On a laissé la place qu'il fallait à certains de ces catcheurs-là pour qu'ils puissent s'exprimer et montrer ce qu'ils avaient un petit peu dans le ventre. Donc voilà, ça me plaît, au détriment d'autres choses, hein, la division tag team, j'en sais rien, toi, le catch en lui-même, il n'y a pas eu beaucoup de catch.
Et puis, non, il y a eu énormément de catch.
Bon voilà, donc 3,25 pour moi. Catch-up, c'est toutes les semaines évidemment, hein, les reviews, les analyses de Raw, SmackDown. Ce week-end, il va y avoir également la preview avec les pronostics pour No Mercy. Et cette grande affiche, ils l'ont appelé, j'ai écouté là, ils l'ont appelé le WrestleMania 1.5 et Raphaël, parce qu'effectivement, on a quand même des putains d'affiches. Hein,
il y a des très gros matchs, moi j'ai très très hâte en effet. Hein.
J'imagine que monsieur a posé son lundi pour pouvoir regarder.
J'ai pas posé mon lundi, mais je compte bien en effet regarder ça le plus vite possible, parce que je suis très très excité. Ouais.
Voilà, vous nous retrouvez donc toutes les semaines sur iTunes, sur PodCloud et toutes les plateformes de podcasting, évidemment, pour suivre vos podcasts favoris, donc Catch Up, je l'espère. Hein. Sur YouTube également, vous pouvez nous suivre, vous abonner et nous voir donc en vidéo, youtube.com/catchupcdc. Pour le Twitter et le Facebook, c'est également catchupcdc et lescahiersducatch.com. pour retrouver les articles et les plumes affûtées de l'équipe. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à partager dans la section commentaires de YouTube votre top, votre flop et votre note. Partagez, commentez, mettez-nous des pouces. C'était quoi ce rire? Je dis aux gens de nous mettre des pouces, ça te fait marrer, toi.
Ça me fait toujours marrer, cette expression.
D'accord, je ne veux pas être dans ta tête à ce moment-là. En tout cas, merci Giscal, et bon retour parmi nous. Hein.
Merci
back.
Beaucoup de m'avoir à nouveau accueilli, IRM. Ça me fait très plaisir d'être revenu.
Écoute, le supplément SmackDown, c'est The Land of Opportunities. On donne la chance aux jeunes. On est comme ça. rendez-vous donc à la semaine prochaine. Salut.
Allez, ciao tout le monde. Salut. Tu me vois à la plage, c'est sous un parasol et je mets pas un orteil dans l'eau parce que je déteste ça.